Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je refuse totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. 7 septembre 1997, 7 septembre 2017, il y a 20 ans, mourait en exil au Maroc l'ancien président de la République du Zaïre, le maréchal Mobutu Sese Seko. 20 ans après sa mort, plusieurs analystes politiques reconnaissent à son actif l'unité du pays et une politique qui suscitait la crainte de pays voisins. Le maréchal avait aussi bénéficié pendant tout son règne de l'appui de ses amis occidentaux. Pour vous, que reste-t-il dans la mémoire collective du règne de Mobutu? Vous pouvez participer à cette émission à l'adresse pa@radiokapi.net en nous rejoignant également sur notre page Facebook. Nico Kalambay est à la réalisation de cette émission mise en onde par Mimi Kindou. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci à tous les internautes de l'intérêt que vous avez accordé à ces sujets depuis qu'il a été posté. Sylvain Louma pense que sous les règnes de Mobutu, l'unité et la cohésion nationale, il y en avait. L'insécurité à l'Est n'était pas récurrente comme nous les vivons aujourd'hui. Il faut honorer la mémoire du feu maréchal Mobutu. Ce n'est pas parce qu'il est décédé qu'il faut complètement le reléguer. En Allemagne, Rudolf Hitler, malgré son sadisme, les Allemands honorent la mémoire de cette personnalité. Les autorités actuelles doivent travailler davantage pour le rapatriement du corps de Mobutu. Pourquoi aussi ne pas commémorer officiellement l'anniversaire de son décès comme on l'a fait pour d'autres personnalités? Félix Trésor dit que Mobutu était un très bon président que nous avons connu dans notre pays par le simple fait qu'il était un monsieur qui prônait de la cohésion nationale. Il ne partageait pas l'idée du tribalisme, du népotisme et de clientélisme, mais aussi à son époque, la RDC, ex-Zaïre, était parmi les pays le mieux respecté en Afrique. Vanessa Amoula estime que Mobutu a été un homme de parole. Les fonctionnaires étaient respectés et valorisés. L'insécurité n'existait pas et il y avait une armée bien fondée. Allégresse Sankara pense que Mobutu est mort, mais son ombre plane toujours dans toutes les institutions de la RDC, car tous ses acolytes sont aujourd'hui aux commandes de la chose publique. Mardoché Mungaza dit que Mobutu était un président compétent pendant tout son règne. Il nous a montré de quoi il était capable, surtout dans les domaines politiques et militaires. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons Jean-Jacques Owondo depuis Bruxelles, un analyste politique. Jean-Jacques Owondo, bonjour.
Bonjour, monsieur Lungembo.
Voilà, est-ce qu'on peut se faire une idée aujourd'hui, 20 ans après, que reste-t-il dans la mémoire collective du règne de Mobutu?
Oui, la question est assez difficile à m'en répondre aujourd'hui, parce que la personne même de Mobutu nourrit des sentiments mitigés dans les chefs des Congolais selon les générations. Une certaine génération, parce que si on prend la génération dite indépendantiste ou de la génération Lumumba, cette génération considère Mobutu comme un traître à la solde des capitaux, des capitalistes ou du monde occidental. Et si vous prenez une autre génération, généralement majoritaire, qui vient après 1965, quand Mobutu a accédé au pouvoir après son deuxième coup d'État, ben, les réponses que vous venez d'avoir via les auditeurs montrent que Mobutu, c'était un grand homme politique, quelqu'un qui a travailler pour l'unité nationale. Voilà un peu ces deux sentiments qui ressurgissent quand on fait, quand on veut faire une sorte de bilan de ce qu'a été Mobutu, de ce qu'il a fait ou de son héritage. Mais sur le plan historique, il me semble prématuré, avec suffisamment de recul, de faire un certain jugement de l'action politique de Mobutu. Et par conséquent, dans son héritage, dans la mémoire collective. Parce que c'est trop tôt. Aujourd'hui, la plupart des réactions sont faites par rapport à la situation d'aujourd'hui. de la situation de travail que traverse actuellement la RDC. Et c'est normal que beaucoup de guests arrivent à regretter Mobutu. Est-ce que le fait de regretter Mobutu est résultant du fait qu'il a bien travaillé ou que ceux qui sont arrivés sont venus copier ce qu'a fait Mobutu, mais en pire? Voilà toutes les questionnements qui peuvent émerger lorsqu'on veut parler de l'héritage de Mobutu dans la mémoire collective.
Oui, Jean-Jacques, est-ce qu'aujourd'hui c'est réaliste de comparer les deux époques, l'époque de Mobutu à l'époque d'aujourd'hui? Donc, est-ce que il y a vraiment photo?
Je pense qu'on ne peut pas interdire la comparaison. C'est pas question de réalisme, mais il faut toujours comparer les choses. Il y a eu une période de gouvernance entre 65 et 97. Et la période qui a suivi. Et quand on compare les deux périodes, comme vous l'avez dit, il n'y a pas photo. Là, on peut admettre que la période Mobutu était de loin meilleure que la période actuelle qui amène le Congo dans les bas-fonds. Mais est-ce si on essaie de comparer de manière absolue l'évolution de la RDC par rapport aux autres pays? Et là, si on met les deux périodes, on se rend compte que ni la période de Mobutu ni la période actuelle n'a permis à la RDC d'aller en avant.
Est-ce qu'avec l'avènement de la démocratie, pensez-vous que Mobutu vivant, la RDC pouvait tendre vers l'émergence?
J'ai pas bien compris votre question.
Oui, je disais tout à l'heure qu'avec l'avènement de la démocratie, pensez-vous que Mobutu vivant pouvait amener la RDC vers un pays émergent?
Avec la démocratie, je pense que Mobutu était déjà réfractaire à l'idée de la démocratie. Donc l'émergence aujourd'hui n'est pas vraiment un facteur de la démocratisation. Parce que quand vous prenez des pays comme la Chine ou la Russie et beaucoup de pays du BRICS, ce ne sont pas des pays qui sont modèles en termes démocratiques. Je crois que Mobutu avait atteint les limites de son action politique et de sa vision et qu'il ne pouvait plus apporter quelque chose de nouveau pour amener le Congo vers le sommet. Il y a une période où il aurait pu le faire, c'était à mon avis, entre 65 et 75. Je pense que c'est à partir de 71 et 75 qu'il y a eu le tournant négatif dans la gouvernance de Mobutu. Aujourd'hui, même avec l'avènement de la démocratie, même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir au Congo, si on fait le parallélisme, sont aussi réfractaires de la démocratie parce que cette démocratie leur a été imposée. Ce sont des belligérants. C'est difficile de voir des belligérants devenir des démocrates. La démocratie a été une construction qui a été imposée par l'étranger, notamment par l'accord de Saint-City en 2002. Donc, je ne pense pas que Mobutu aurait amené le Congo à l'émergence parce que le Congo était quasi émergent quand Mobutu a pris le pouvoir. Il devait plutôt l'amener vers le développement.
Alors, vous avez parlé de la gouvernance, c'est vrai. Ben, alors, parlons de la diplomatie. Et qu'est-ce qu'il y a à retenir de la diplomatie de Mobutu? Ou la coopération internationale?
Je pense que Mobutu, l'avantage de Mobutu, c'est quelqu'un qui a profité de la conjoncture géopolitique internationale marquée par ce qu'on appelle la guerre froide, donc la période qui a succédé à la Deuxième Guerre mondiale, où le monde était divisé en deux blocs, le monde communiste et le monde capitaliste. Le monde capitaliste, que j'essaie un peu d'être didactique pour les jeunes générations qui nous suivent, c'était le monde qu'on appelait communément occidental, et le monde communiste, c'était le monde soviétique. Et Mobutu, avec la configuration géographique exceptionnelle du Congo, Mobutu était devenu un rempart contre l'expansionnisme communiste parce que si vous voyez, vous allez autour du Congo ou de le Congo donc Zaïre de l'époque, c'était quasiment la plupart des pays étaient plutôt d'obédience communiste. Et Mobutu a été servi comme un agent de ce pays ou comme un valet de ce pays pour limiter l'expansion du monde communiste. Et du coup, il a joué un rôle géopolitique ou géostratégique central et il a fait que le Zaïre ou le Congo était le centre de gravité de la région. Donc avec un pouvoir, en physique, on dit centripète, c'est-à-dire que tout était tourné vers le Congo. Et quand vous avez un pouvoir dont le centre de gravité est centripète, on a tendance à renforcer la sécurité régionale. Par contre, si vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle un pouvoir centrifuge où le Congo est devenu l'objet de convoitise, vous avez tendance à faire de sorte que du Congo, on essaie de tirer le Congo dans toute part et on a ce qu'on appelle le classement du Congo. Ce qui explique un peu la situation actuelle du Congo. Donc, mais là, Mobutu, aussi, quelqu'un qui était aussi très instruit et qui était aussi avec sa vision, a joué un rôle diplomatique important. Ça, on ne peut pas le dénier, mais il a joué de cette conjoncture qui lui était favorable.
Alors, la gestion à l'interne au niveau, sur le plan politique, à un certain moment, là nous parlons après les années 80, ou disons les années 80, au début 83, quand il y a eu les 13 parlementaires, et par la suite, début 90, lorsque on a proclamé le multipartisme, on l'a senti comme si la politique battait un peu de l'aile. Mobutu s'est ressaisi par après que c'était une erreur qu'il avait commise en proclamant le multipartisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la gestion de cette période de la politique, c'était mal parti au fait? Il y a eu une mauvaise gestion de la part de Mobutu, ce qui a fait que ça l'a coûté, ça a coûté son départ.
C'était une mauvaise gestion, mais c'était aussi dans la conjoncture normale de l'évolution des choses à l'époque, parce que faut dire que le MPR au départ, ce n'était pas un parti comme tel, c'était un mouvement où Mobutu a apporté plusieurs chefs qui étaient soit des leaders constitutionnistes, soit des leaders provinciaux. Et à un certain moment, ils voulaient les mettre ensemble dans un projet d'abord qui était unificateur, parce que l'objectif était d'unifier le Congo, de pacifier le Congo. Je pense qu'une fois que l'objectif était atteint, ces différents collaborateurs nourrissaient aussi d'autres ambitions politiques de voir le Congo évoluer autrement que dans une forme de parti-État. Toutes les tensions qui ont été suscitées, et ces tensions sont aussi consécutives à des événements que les gens oublient. Cette période était consécutive d'abord à la guerre, ce qu'on appelle la guerre du Chaba. Chaba 1, Chaba 2, qui sont devenus aujourd'hui, Chaba qui est devenu aujourd'hui la province du Katanga.
Oui.
Et c'est là, c'est cette guerre-là qui a marqué le début de la fragilité du régime de Mobutu. Il y a dû un régime qui a été sauvé grâce à l'intervention des armées étrangères. Là aussi, il y a un mythe autour de l'armée congolaise dont je suis issu aussi. Pourquoi cette armée est investie? Effectivement, Mobutu a eu l'audace de former des très bons militaires, des grands cadres, a eu l'audace de mettre en place ce qui pourrait faire de l'armée congolaise l'armée la plus puissante, non seulement en Afrique, qui pouvait même aller s'exprimer ailleurs. Mais de l'autre côté, la politisation de cette armée, le clientélisme, le népotisme, même le tribalisme, ont fait qu'il a semé, je peux dire, les germes de la déliquescence de son pouvoir. Et sur le plan politique aussi, il y a eu un événement en 79, le massacre des Katikelaï. Ce sont des massacres des mineurs dans le Kasaï. Ils n'ont rien à envier avec ce que nous vivons aujourd'hui, qui ont été aussi suscités des éléments réfractaires au sein de ses collaborateurs, M. Tshisekedi, M. Kyungu et Liaou.
Et tant d'autres 13 parlementaires, oui.
Liaou, et donc, voilà un peu, je pense que Mobutu était mis devant un fait accompli, et ce n'était pas une question de stratégie, mais c'était le fait qu'il devait composer avec les éléments qui étaient là et qui commençaient à fragiliser son pouvoir.
Jean-Jacques Wondo, vous intervenez depuis Bruxelles. Nous vous gardons en ligne, il est temps d'ouvrir les standards et accueillir également d'autres auditeurs. Mais nous annonçons dans cette émission, on va également interviewer, donc on va donner la parole également au professeur Ange François, historien gabonais, pour voir un peu l'africanisme, disons le caractère africaniste de M. Mobutu en Afrique. 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa.org. info@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Adrien, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour Adrien.
Bonjour Gilles, bonjour à monsieur l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Voilà, vous avez suivi Jean-Jacques Ouhondo tout à l'heure depuis Bruxelles, qui nous brossait un peu ce qui reste dans la mémoire collective du règne de Mobutu. Alors pour vous, sur le plan gouvernance, diplomatie, sociale et politique, qu'est-ce que vous avez retenu du règne de Mobutu?
Merci beaucoup. C'est vrai que je fais partie de la nouvelle génération, donc je n'ai pas connu vraiment tous les règnes de Mobutu, mais les 5 dernières années, nous les avons connus. La question qui me saute aux yeux, c'est pourquoi on a chassé Mobutu? Qu'est-ce qu'on a reproché à Mobutu? Et qu'est-ce qui a changé après le départ de Mobutu? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou sur la mauvaise? Je voudrais que cette question, que chaque Congolais puisse réfléchir, et que ce soit ceux qui se dirigent et ceux qui sont à l'opposition de la société civile, pour savoir, pour remettre en cause tous les sacrifices que certains Congolais avaient fait en prenant les armes et en sacrifiant leur vie pour faire chasser Mobutu, et aussi le bienfait qu'on en a pu tirer parce qu'il y a des orphelins et ces démarches. Alors, Mobutu, il y a des points quand même positifs. Il faut reconnaître qu'à l'époque de Mobutu, la République démocratique du Congo était une puissance, c'est-à-dire tous les pays limitrophes savaient la force de la République démocratique du Congo et nous étions respectés. Et il y a eu une monnaie vraiment stable, il y a eu une armée très forte et dissuasive, d'ailleurs monsieur l'invité l'a étayé, mais ce que moi je reproche aussi au gouvernement actuel ou au régime en place, c'est de tout effacer de Mobutu. On n'efface jamais l'histoire, parce qu'aujourd'hui, à l'école, on enseigne aux enfants un certain nombre de présidents qui ont eu à régner, et Mobutu est le président qui a fait longtemps. Même si on peut retenir le côté négatif, mais on pouvait se souvenir du côté négatif, parce que même dans certains pays du monde, il y a des monuments à mémoire de l'apartheid, comme en Afrique du Sud par exemple, il y a des monuments à mémoire de l'esclavagisme, des traites des Noirs. Tout cela, c'est pour se souvenir même une fois l'an des bienfaits ou des désavantages de cette personne. Alors, je prends, par exemple, sur le plan éducatif. À l'époque de Mobutu, il y avait des bourses d'études. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Beaucoup des dirigeants qui sont dans les postes d'étudiés avec les bourses d'études de Mobutu. Je prends sur le plan des infrastructures. Il y a les routes, il y a des bâtiments même administratifs aujourd'hui, le stade, vous avez des camps des militaires. Ce sont des actifs de Mobutu. Alors, aujourd'hui, on semble tout oublier et vraiment balayer ça d'un revers de main, et ce qui fait que même l'histoire ne retient plus rien, même si Mobutu était vraiment le dictateur, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui la dictature a été effacée? Ça, je ne sais pas. On a vu reprocher à Mobutu le dépossisme, n'est-ce pas, et aussi la crispation de la situation politique, parce que Mobutu était en train de se concentrer sur le parti unique. Mais aujourd'hui, c'est une autre forme de ce qu'on lui a reproché. On a dit que Mobutu n'était pas un démocrate. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, le pays ne s'appelait pas République démocratique. Mais dans le comportement, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons déjà vers la démocratie? Est-ce qu'il y existe le respect des textes? Est-ce qu'il existe le respect des droits fondamentaux? Donc voilà un peu toute cette analyse que moi je pourrais passer à...
Merci. Merci beaucoup Adrien. Vous avez commencé d'abord par vous poser la question pourquoi on a chassé Mobutu et qu'est-ce qui a changé après les départs du maréchal autour de ces deux questions qu'a tourné donc votre intervention. Alors mais sur le point positif, vous avez estimé que la RDC était une grande puissance au niveau qu'il avait la RDC avait une monnaie qui était quand même très 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 stable et aussi au niveau de l'armée on pouvait parler d'une armée très dissuasive et, mais vous profitez d'ailleurs pour dire que voilà on ne fasse pas l'histoire facilement tout ce qui a été qui constitue aujourd'hui comme les acquis on devait plutôt le capitaliser. C'est vrai que on a dû reprocher à Mobutu certaines choses notamment le dépossisme comme vous l'avez dit. Mais néanmoins, comme l'ont fait sous d'autres cieux certains citoyens qui ont honoré des personnalités qui ont marqué l'histoire politique de leur nation, je crois que vous plaidez, comme tous les autres analystes, qu'on puisse également réserver cet hommage au maréchal Mobutu, qui a laissé quand même des tâches indélébiles, notamment de bon côté, vous avez cité quelques infrastructures qu'il a dû notamment léguer à la génération. Et vous avez dit que vous êtes de cette génération que Jean-Jacques Wondo parlait tout à l'heure, de la génération après 1960, et qui voit en Mobutu un grand, et puis avec comme actif dans sa vie politique l'unité nationale. Alors on ira au Gabon, il y a le professeur Ange qui nous a rejoint, à qui on va accorder la parole d'un moment à l'autre, mais il est temps d'abord de prendre Ferdinand. Ferdinand est avec nous. Ferdinand, vous êtes à Kinshasa également. Ferdinand, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Ferdinand, vous êtes à Kinshasa?
Oui. Concernant le maréchal Mobutu. Oui. Nous avons suivi sur...
Voilà, Ferdinand, on a des petits...
Oui, Ferdinand. Balancé, oui, le film de M. Mobutu. Et la chose qui m'a vraiment étonné, monsieur le journaliste, c'est que le monsieur, ils sont aujourd'hui...
Oui, oui, Ferdinand, oui, Ferdinand, Ferdinand, nous avons des petits soucis avec votre ligne. Là où vous êtes, peut-être, vous sortez comme dans une caisse, là. Si vous êtes dans une maison, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu?
À le critiquer. Et ils sont encore autour de lui aujourd'hui.
Voilà, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible en onde. Le temps que la ligne s'améliore, on ira au Gabon avec pour retrouver un autre historien qui nous a rejoint également à ce niveau du débat. Professeur François Ange, vous êtes avec nous?
Oui. Oui, voilà. Oui, je suis là, je vous écoute, oui.
Voilà, vous êtes gabonais, historien. Allô? Oui, vous êtes gabonais, historien. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans l'actif de Mobutu, on peut aussi prendre en compte l'africanisme? Il peut être compté, lui, parmi les pères africanistes je ne sais pas.
Oui, je voudrais d'abord saluer ceux qui sont passés avant moi. Je suis gabonais, il est vrai, mais y compris Jean-Jacques... Au Wondo, hein,
oui.
Qui est bongo, qui est le bilois, vous voyez.
Tout à fait.
Même s'il est à Bruxelles.
Oui.
Et je crois que son analyse a été une très bonne analyse, ainsi que la question que se posait celui qui est passé après lui, pourquoi on a chassé Mobutu? Ça, le problème est celui-là. On pense normalement que quand on enlève un président de République, celui qui arrive sera fameux, et ainsi de suite. Et le dicton est là, on sait celui que l'on perd, mais... Celui qui arrive, on ne sait pas. Alors, moi, j'étais étudiant en France dans les années 60, et quand Mobutu arrive au pouvoir, on n'oubliera pas du tout que Mobutu est quand même celui qui a fait passer de vie à trépas, quelqu'un qui montait au pire moment de la politique africaine en la personne de Lumumba. On ne peut pas oublier. On ne peut pas aussi oublier que, bon, pour pouvoir asseoir son autorité, Mobutu a commis quelques exactions, je pense toujours à cette fameuse pendaison de la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais quand on regarde l'histoire des pays comme la France, parce que je suis un ancien sujet français, la France, pour grandir, a eu besoin de personnalités politiques de premier rang qui n'étaient pas tous des saints. Au fur et à mesure, donc chacun, ceux qui passaient, ont fait des choses qui ont été à l'origine de la grandeur de la France aujourd'hui. Mmh. Il y a eu donc des dictatures. Alors, les Africains ont ceci de spécial, c'est qu'ils pensent toujours que la politique est quelque chose de totalement nouvelle et que c'est chez eux que cela commence. Ils ne regardent jamais en arrière pour essayer d'identifier un peu ce qui avait été fait auparavant. Dans Mobutu, il y a plusieurs personnes. Il y a donc celui qui prend le pouvoir... sous la violence, il y a celui qui veut faire asseoir le pouvoir, et ainsi de suite. Je crois que Wondo a été formidable à faire dessus. On va pas revenir dessus et retenir nos amis auditeurs sur des questions surannées, mais qui existent. L'histoire est là, on ne l'efface pas. Mais moi, je vois surtout Mobutu après. Il est clair que Mobutu, avec son arrivée au pouvoir, quelques années après, les 10-15 ans après, Mobutu a représenté quand même quelque chose de spécial. Pour les Africains, c'était l'orgueil. Et Mobutu était un de ces rares hommes qui pouvait parler haut et fort et qui, même de fois, tournait contre les puissances européennes ou américaines, ce qui, d'ailleurs, lui a valu quelques ennuis avec les Américains qui l'ont aidé et placé. Mais il y avait dans l'homme beaucoup d'orgueil et sûrement un amour inconditionnel, n'est-ce pas, du pays, non pas seulement de son pays, le Congo, que nous connaissons très bien, parce que j'ai une moitié d'origine de la petite République d'en face, comme il disait, donc. Mmh. Et, mais cet homme, je pense par exemple à cette histoire de costume, où il refute, oh, évidemment, les Européens vont regarder ça comme une espèce d'enfantillage, mais sincèrement, on avait quand même besoin de gens qui pouvaient dire non, et qui pouvaient parler haut et fort en ce début des années d'indépendance. Mmh. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que quand on juge, par exemple, les hommes politiques du Congo ou du Zaïre, comme vous voulez, on oublie, quand on est loin, on oublie et on ne réalise pas ce que c'est que ce pays qui est immense. Deux fuseaux horaires, on met presque 4 à 5 heures de temps pour le traverser, c'est-à-dire que moi qui suis à Libreville, j'arrive à Dakar, voilà, c'est la grandeur de votre pays. Mmh. C'est un pays difficile, avec des groupes ethniques totalement différents, des gens formés différemment. Et le colonisateur n'a pas été très heureux parce qu'il ne vous a pas formé. Voilà. Et c'est quand même au fur et à mesure que vous-même, quand vous avez pris votre destin en main, que le Congo s'est formé et a donné naissance à des hommes politiques formidables. Mmh. Maintenant, Mobutu, son travail, pour moi, en n'oubliant pas ce qui a été avant, l'historien peut l'oublier, mais je vois vraiment le milieu de son règne a été quelque chose de formidable. On était fiers. Vous savez, à l'époque où j'étais en classe de doctorat, j'ai eu cette possibilité de travailler à Radio France Internationale, donc Quai Branly, là. Mm-hmm. Et puis un jour, j'ai vu une chose qui m'avait fait rire et sauter de joie, c'est que l'équipe du Zaïre, du Congo, est allée jouer au Maroc, et ils avaient amené des singes fumés, mm-hmm. qu'ils avaient suspendus, et les gens ont regardé ça en disant qu'ils ont amené des petits bébés fumés. C'est qui a énervé Mme Mobutu, qui a tapé la main sur la table. Il a dit qu'il envoyait son avion pour reprendre, n'est-ce pas, ses joueurs. Mmh. Et le Maroc est obligé de s'excuser. Et la France, parce que j'ai travaillé pour les Français, était là et regardait ça en disant, mais celui-là, on regardait toujours, on disait qu'il faisait un peu trop. Mmh. Mais alors... je crois qu'on souffrait de cette... nous souffrons, n'est-ce pas, de colonialisme, où nous étions plutôt... très difficile, hein. Ce que faisait le blanc était bon, on avait peur de parler, et Mobutu, alors là, comme Kwame Nkrumah, n'est-ce pas, mm-hmm. a donné quand même aux Africains une espèce d'orgueil, et ainsi de suite.
Merci beaucoup.
Et cet orgueil, on le voyait dans le club de football, par exemple, mm-hmm. le tout-puissant Mazembe, qui était formidable, et c'est un pays qui, vraiment, a donné, a fait la fierté, hein. Pendant longtemps, les autres pays africains, sans compter, il y avait beaucoup de vandalisme, peut-être. L'armée Merci. Des Camagnola, et ainsi de suite.
Voilà.
Ou l'armée des Pygmées. Ils nous faisaient rêver.
Bon. Voilà,
et je crois que les Africains, quand même, ont regardé à Mobutu un homme un peu spécial. Mm-hmm. Aussi, je n'ai pas bien compris, parce que je ne suis pas politicien et au Gabon, je ne le serai pas. Je suis simple historien, je constate les faits, je le décris. Mais la démocratie. Ah. Cette démocratie, est-ce que... Si on mettait la démocratie en Chine, qu'est-ce qui arriverait là-bas? Un éclatement du pays. Parce que les Africains, nous n'avons pas historiquement ce système démocratique.
Oui.
Et moi, je regarde même au Gabon.
Voilà, professeur, professeur François.
Le Gabon d'hier.
Oui, oui professeur François. Professeur François, juste une dernière question, parce que il y a d'autres auditeurs qui vont nous rejoindre dans le débat, sinon nous risquerons de par rapport au temps. Alors, juste une question. Donc, si je comprends bien, Mobutu est peut-être compté aujourd'hui parmi le premier africaniste.
Oui, il comptait parmi. Il était dans la suite de
Kwame Nkrumah,
comme Nasser, comme Kwame Nkrumah, de tous ces gens qui vantaient l'Afrique, qui donnaient de l'orgueil et qui permettaient aux autres pays de lever un peu la tête, parce que souvent emprunt, n'est-ce pas, au colonialisme, et ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Et Mobutu a cassé un peu la baraque.
Merci beaucoup.
A cassé la baraque, et je crois que de ce côté-là, on peut dire qu'il a été quand même un grand président, nonobstant ce qui a été fait avant, mais qui n'a pas fait pire.
Merci beaucoup.
Donc,
professeur
pour moi,
François.
L'analyse, je crois qu'on ferait bien de faire revenir quand même
son corps, un patrimoine de son temps. Merci. Comme l'ont souhaité certains auditeurs.
Nous ne sommes pas tous bons.
Merci.
Il y a des choses qui sont bonnes et vous allez dire, et des choses mauvaises, d'accord.
Merci
mais
beaucoup.
Pour terminer, je dirais que quand même, il a été un très grand président et il mérite bien qu'on le qu'on l'honore et que même on puisse mettre chez vous là-bas une statue ou en passant on puisse
remémorer
cet homme Mobutu qui a secoué quand même le monde.
Voilà, professeur François Ange, merci de votre disponibilité de pouvoir échanger avec nous sur cette question. On va poursuivre cette émission avec Maître Adrien qui est à Kananga. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo.
Pour vous, que reste-t-il dans la mémoire collective du règne de Mobutu?
Oui, je pense que le professeur François était éloquent là-dessus, parce que ce qui m'étonne souvent, c'est lorsque nous, Congolais, nous croyons que nous sommes parfaits, que ceux-là qui nous ont précédés, lorsque nous prenons la gestion du président Mobutu, c'est après sa mort, comme l'a dit le professeur François, qui est personnellement, je me suis rendu compte que c'était un métier important pour notre pays, bien qu'il n'a pas su saisir l'opportunité pour faire rêver donc les Congolais de sa grandeur, de tout ce que lui avait dans sa pensée. Donc sur le plan pratique, il n'a pas su le faire, mais sur beaucoup de plans, parce qu'aujourd'hui, lorsque je prends la justice congolaise, je la compare à la justice à l'époque de Mobutu, il n'y a pas photo JR, nous avions beaucoup regretté sur le plan judiciaire, parce que au jour d'aujourd'hui, n'importe qui a un mot à dire sur le juge, même si ce n'est pas un procès politique, il y a des influences, et le juge eux-mêmes ne savent plus encore donc se prendre en charge, ne savent plus mettre en exergue leur propre indépendance. Ils sont ballottés à gauche, à droite, mais à l'époque de Mobutu, ce n'était pas le cas. Lorsque nous prenons sur le plan politique, c'est un président Mobutu qui faisait respecter sa population, même au-delà de la frontière nationale. Lorsque par moment je suis son discours à l'ONU, comment est-ce qu'il défendait l'Allemagne? Je me dis, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous aurons un dirigeant africain avec cette façon-là de faire? Contrairement peut-être au professeur François, il dit que Mobutu était orgueilleux. Non, moi je pense que, au lieu de dire qu'il était orgueilleux, il serait mieux de dire que Mobutu était encourageux tout simplement. Donc c'est son courage-là qui faisait à ce que certains grands chefs de l'État occidentaux puissent un peu reculer lorsqu'il faut traiter le cas du Zaïre. Lorsque nous prenons l'armée, nous étions parmi les trois meilleures armées africaines. Et aussi, c'est quelqu'un qui avait une vision. Aujourd'hui, lorsque je vois comment est-ce que le peuple congolais est importuné, permettez-moi les termes, par le pays voisin, je me dis, est-ce qu'il faut aller vraiment toquer sur la tombe du président Mobutu pour qu'il soit en vie, ou bien il faut faire quoi? Donc, bref, moi je pense que l'homme est séculé avec ses faiblesses. Pourquoi pas nous ne pouvons pas copier l'exemple de Français? Parce que lorsque vous arrivez en France, il y a un endroit où on appelle Panthéon. Là, on a immobilisé tous les grands chefs. Mais lorsque nous prenons tous ces gens-là, ils n'étaient pas parfaits. Hein? Vous prenez le Napoléon Bonaparte. Ils ont commis pas mal de problèmes, mais aujourd'hui, ils sont honorés. Pourquoi pas? Nous ne pouvons pas aussi honorer nos siens. Lorsque je vois Mobutu, je me dis peut-être il faut après 50 000 ans pour retrouver un autre Mobutu dans notre pays.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Là, vous avez également, Maître Adrien, évoqué le sursaut d'orgueil qu'avait Mobutu, qui a, au fait, fait peur aux Occidentaux, parce qu'on voyait en lui un homme grand et un homme fort. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR, bonjour à tous les auditeurs. Bon, voilà. Je préfère que nous marquions d'abord une différence entre un grand chef et un bon chef. On peut être un grand chef, mais sans être bon. Mobutu, il était un grand chef. C'est vrai, parce qu'avoir fait 32 ans dans un pays comme celui-ci, compte tenu de sa position géostratégique, c'est qu'il a été grand. Mais dire qu'il était un bon chef, non. Je surprendrai beaucoup d'entre nous, ça n'engage que moi. Mobutu n'était même pas un mauvais chef, mais pour moi, il était un médiocre. Pourquoi? Lorsqu'on juge du bilan d'un chef, on voit les moyens dont il disposait, les difficultés qu'il a rencontrées, les opportunités. JR, quand nous mettons tout ça sur la table, le maréchal Mobutu nous a fait reculer de 4000 km, là où on pouvait même avancer de 2 pas. Pourquoi? Imaginez-vous, sur le plan sécuritaire, ok, tout ce qu'il a fait sur le plan sécuritaire, il l'avait fait derrière sa propre sécurité. Il avait bien besoin de la sécurité pour que la GKMIN produisent, l'Amiba produise, et que tous ces revenus, la SNCC, le port de Matadi, l'ONATRA, tout ça. C'est tout à fait normal. Mais lorsque nous voyons ce qu'il a fait du pays, d'abord, moi je suis né quelques mois avant que Mobutu ne prenne le pouvoir. Donc j'ai vécu le Mobutisme, moi. J'ai étudié jusqu'à terminer les études, travaillé même. S'il vous plaît, Mobutu prend le pouvoir, d'abord par un coup d'État. Les sécessions qu'il y avait dans le pays, ce n'était pas les Katangais et les Kassins qui avaient mené les sécessions, c'était les Belges. Ce sont eux-mêmes qui avaient mené, qui l'avaient mis au pouvoir et qui avaient mis fin aux sécessions. Là, il n'a pas donc à adorer le maréchal. Il a tué l'enseignement, il a tué la fonction publique, il avait une forte armée, pas pour nous protéger, mais pour réprimer la population, réprimer les étudiants, réprimer l'opposition, et finalement, aujourd'hui, avant même qu'il ne parte, celui qui nous a laissé la guerre de l'AFDEL, parce qu'il avait voulu capitaliser le conflit rwandais en armant les Hutus pour qu'ils aillent attaquer les Tutsis. Et de là, avant même son départ, la guerre est arrivée. Et il n'a pas su gérer ça. Je me rappelle seulement qu'il avait dit à Moïse Kabila qu'il sache que le même moyen qu'il utilise aujourd'hui peuvent encore se retourner contre lui demain. Et là aussi, Moïse Kabila, il n'avait pas très bien saisi la balle au bon. Plus tard, la coalition rwandaise s'est encore tournée contre lui. Alors, Mobutu, il nous a fait reculer. Il nous a fait reculer jusqu'à tuer l'enseignement. Même ce que nous avons aujourd'hui, ce sont les politiciens mobutistes qui nous a laissé, qui nous dérangent aujourd'hui sur la scène politique. Ils ont fait le mobutisme tout un métier. Ils ne peuvent pas faire autre chose dans la vie si ce n'est le mobutisme. Aujourd'hui, Mobutu nous a empêché, pire que ça, la démocratie. Qu'est-ce qu'il a empêché? Il n'a connu aucune difficulté pour asseoir une politique de développement. Tout ce qu'il voulait, il l'a fait. Mais si nous ne sommes pas démocratisés, c'est parce que lui n'avait pas voulu qu'on soit démocratisés. Il a tout fait pour bloquer la conférence nationale souveraine. Il nous a mis dans la troisième voie. Il a tué. Moi, j'étais à la marche même du 16 février à la Fikine. J'ai failli laisser ma vie là-bas.
Merci beaucoup.
Comment on peut vanter mon tour?
Merci beaucoup. Voilà, ingénieur Valérie. Ingénieur Valérie, je comprends bien. Je retiens deux choses. Donc, il faut faire la part des choses entre grand chef et un bon chef. Vous avez dit, Mobutu, vous avez reconnu que c'était un grand chef par rapport à la position géostratégique que l'occupait, en tout cas un grand pays sur le plan régional ou encore sous-régional. De l'autre côté, il avait des moyens, il avait des opportunités qu'il a utilisées que pour sa propre sécurité. Ben, et vous avez conclu que pour lui, pour vous, en tout cas, c'était un chef médiocre. Voilà, donc, parce qu'il n'a pas pu développer la politique de développement. Merci beaucoup. Alors, José, vous êtes à Bandundouville. Bonjour et bienvenue.
Je suis journaliste.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, bon, quant à moi, j'ai suivi mes frères de CCR, hein. Chacun a donné son avis. Mais moi, je dirais que Mobutu était un grand homme d'Afrique, voire même du monde. Si aujourd'hui, nous, peuple congolais, nous ne reconnaissons pas Mobutu, alors nous sommes ingrats. C'est un monsieur qui a travaillé pour que ce pays soit aujourd'hui au niveau international, reconnu officiellement au niveau international. Puisqu'il a fait des histoires. Mobutu, en fait, il n'était pas tout à fait mauvais comme les gens le disent. Si aujourd'hui, la RDC, à l'époque c'était les Zaïre, tenait debout face aux Blancs, c'est Mobutu qui a dit non, qui a dit des histoires. Quand vous suivez même son discours, son premier discours au niveau de l'ONU, en 73, si j'ai encore une bonne mémoire, et pas 73, 74, Mobutu a pas d'histoire claire au peuple portugais, a pas d'histoire claire. Mais aujourd'hui, quand nous, peuple congolais, nous réunions donc la puissance et la volonté d'émergence de M. Mobutu, là, je ne peux pas accepter.
Voilà, merci. Merci beaucoup, José. Vous ne partagez pas l'avis, qui est, disons, le point de vue développé tout à l'heure par Général Valérie, qui a qualifié, au fait, le pouvoir de Mobutu de médiocre, en tout cas. Alors, on va revenir à vous, Jean-Jacques Wondo, depuis Bruxelles. Jean-Jacques, vous êtes avec nous?
Oui, je vous suis.
Alors, quelle est la réaction que vous avez après avoir écouté les uns les autres? Et lorsque, surtout Valérie insiste, il fait la différence entre un grand chef et un bon chef, et aussi, disons, d'autres auditeurs qui ont vanté, disons, tous les mérites de fait Maréchal Mobutu, sur le plan gouvernance, diplomatie, l'armée, et puis sur le plan politique.
Oui, quand on parle d'un grand chef et un bon chef, on prend question de leadership. Moi, je pense qu'on ne peut pas être un grand chef quand on n'est pas un bon chef, un grand chef, un leader. quelqu'un qui est là pour s'occuper de ses troupes, pour leur bien-être, pour l'évolution. Et là, il faut, je dis, laisser aux historiens vraiment la réponse, hein, vraiment de me répondre si Mobutu était un grand chef et un bon chef. Moi, je ne n'aborderai pas la question de cette manière. Effectivement, Mobutu était un homme important, un homme politique important durant la période de la guerre froide. Donc, de ce point de vue, il est indéniable que de dire que Mobutu était un acteur politique incontournable dans la situation dans laquelle évoluait le Congo durant cette période. Mais il y a aussi autre chose. Généralement, on a tendance à penser à l'actif de Mobutu, le fait que le Congo a connu la paix, l'unité nationale, l'intégrité nationale et la fierté de se sentir congolais. Et je pense que sur le dernier point, le sentiment de se sentir congolais, le sentiment de créer cette nation congolaise, pour moi, reste un des points cardinaux, un des points marquants du parcours politique de Mobutu. Si aujourd'hui le Congo, dans la situation dans laquelle elle se trouve, essaie de résister bon an mal an à toutes les tentatives de sa liquéfaction, et ce sentiment-là que Mobutu a consolidé, c'était un sentiment qui était né des pères de l'indépendance, que Mobutu étant aussi accroché à cette mouvance nationaliste et lumumbiste, a voulu créer ce sentiment d'unité nationale, et ça c'est quelque chose qu'on devrait plutôt garder de Mobutu à mon avis, et je pense que c'est un héritage dont nous devons lui être reconnaissants à bien des égards. C'est important de rappeler cela, ce sentiment de sentir une nation. Une nation qui n'est pas un État. Et moi, j'ai dit en Belgique, généralement en Belgique, on a tendance à dire que la Belgique est un État. Mais là, parce que le structure étatique administrative fonctionne à merveille, mais la nation belge est une imagination. Donc, par contre, au Congo, c'est le contraire. Vous avez l'État qui n'existe pas, mais le sentiment d'appartenance à la nation congolaise, le fond, c'est ça, au bout de tout, il y a beaucoup contribué. Ça, c'est un héritage. Quant aux notions de paix et de l'intégrité nationale, je reste mitigé parce que généralement, on dit qui veut la paix prépare la guerre. Je l'ai dit au début, Mobutu a eu tous les loisirs de préparer une armée forte pour instaurer la paix, mais le fait que Mobutu soit parti en étant incapable d'assurer la paix ou d'assurer l'intégrité du territoire, illustre aussi son échec sur cet aspect-là. Et il faut suivre l'évolution des forces armées aïroises depuis 71 jusqu'en 97 pour comprendre que Mobutu, le bâtisseur des prémices d'une armée forte, est devenu son fossoyeur. De ce côté-là, il y a vraiment matière à réfléchir. Voilà si je peux par rapport à cela. Et enfin peut-être, par rapport à la mémoire de Mobutu, je pense qu'il faut revenir aussi au fait que nous sommes des Bantous. Mm-hmm. Généralement, le moment des deux, c'est un moment de réconciliation. Et je pense que Mobutu mérite sa place au Congo, et une place digne pour son actif ou son passif. Nous devons l'assumer, mais Mobutu a sa place au Congo et son mémoire mérite d'être respectée.
Alors, il y a une question qui a été posée par Adrien tout à l'heure. En fait, deux questions qui sont directement liées. Pourquoi on a chassé Mobutu et qu'est-ce qui a changé après le départ? Donc, il dit, tout ce qu'on reprochera à Mobutu, tout ce qu'on pourrait mettre dans son actif sur le plan positif, je crois que c'est à retrouver dans les motivations de cette question. Pourquoi on a chassé Mobutu?
Oui, une très bonne question. Pourquoi on a chassé Mobutu? Mais il faut savoir qui a chassé Mobutu.
C'est le peuple.
Ça, c'est la bonne question. Je ne pense pas que c'est le peuple qui a chassé Mobutu. Si on comprend les raisons pour lesquelles Mobutu a chassé, même si le peuple avait manifesté son rejet de Mobutu sur le plan interne entre 90, le 24 avril 90, date de son discours à la nation sur la démocratie, le processus de la démocratisation, et son départ du 7 mai 97, ben ce peuple-là n'a pas été partie prenante dans la dynamique qui a chassé Mobutu par les armes. Et ça, ça répond déjà au fait que on a chassé Mobutu pas du fait de la volonté politique populaire, mais parce que c'était dans le cadre de d'autres dangers qui dépassaient le Congolais, et ceux qui sont arrivés au pouvoir n'étaient pas en phase avec la population qui voulait le départ de Mobutu par d'autres moyens. Donc on n'a pas chassé Mobutu par la population, ça c'est une fausse aussi, ce sont des contre-vérités de l'histoire. Vous verrez que ceux qui sont arrivés au pouvoir sont dans la continuation des missions qui ont été assignées à Mobutu par rapport notamment, évidemment, à la conjoncture géopolitique ou géostratégique actuelle. Donc ce n'est pas une émanation populaire, et c'est qu'aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir, ils servent mieux que ceux qui ont fait Mobutu parce qu'ils ne sont pas en une démarche qui est l'adhésion populaire.
Voilà, on va vous garder juste pour 3 minutes, avant la conclusion, le temps d'écouter Franck qui nous a rejoint depuis Vienne, et puis Jules qui est à Lubumbashi. Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés, bonjour à tout le monde.
Alors pour vous, que reste-t-il dans la mémoire collective du règne de Mobutu?
Et nous devons d'abord nous mettre d'accord que quand on parle d'un chef de la trame de Mobutu, il y a lieu de différencier Mobutu comme individu et personne et Mobutisme comme système politique, comme idéologie calquée sur la personne ou la vision philosophique de l'être de Mobutu. Ça, c'est un des points que j'aimerais placer là comme base. Puis, un autre aspect, nous devons aussi nous mettre d'accord que chaque peuple du monde aspire au changement. Il aspire à l'amélioration de ses conditions de vie, à son devenir meilleur. Mais parfois, le même peuple qui aspire au changement ne sait pas se rassurer de l'efficacité des dirigeants politiques qui doivent matérialiser ces changements pour son bien. Et je crois que c'est ce qui nous est arrivé entre les années 1996 et 1997. Dire que tout était très bien à l'époque, si nous devons aussi le confirmer, nous pouvons aussi nous demander pourquoi il y a eu autant de réclamations populaires de ces années-là. Dire que tout est faux serait également très malhonnête de nos jours, parce que nous sommes citoyens congolais, nous sommes aussi les historiens de notre propre vie, de notre propre pays. Si la RDC de nos jours tient encore comme une nation, ça je crois que nous devons quand même arriver à le reconnaître, si la RDC tient comme nation, c'est aussi grâce à certains acquis laissés par Mobutu. Et parmi ces acquis, il y a l'intégrité territoriale et il y a la fierté d'être congolais ou zaïrois de l'époque. Les acquis du Mobutisme, il y en a quand même. Mais je crois que là, tout ce que nous devons aussi dénoncer, c'est le fait qu'un chef se fasse entourer, au lieu de se faire entourer par des très bons conseillers, il se fait entourer par des complaisants et des médiocres. Et chaque système politique qui se fait entourer par des conseillers non efficaces, se détruit de l'intérieur. Et nous avons vu comment Mobutu s'est fait entourer des conseillers médiocres vers les dernières années de son règne. Et le même qui ont entouré Mobutu vers les dernières années de son règne,
mais Franck, oui, Franck,
et ça, quelle est maintenant l'aspiration populaire?
Oui, Franck, s'il vous plaît, Franck, vous êtes en ligne.
Oui.
Je disais, c'est que ce que vous dites de conseillers qui ont entouré Mobutu, c'est quand même un peu discutable, parce qu'autour de lui, il y avait des grands professeurs.
Mais oui, monsieur le journaliste, on peut être grand professeur, comme on peut être petit professeur, mais on n'a quel idéal par rapport à ce titre d'être professeur.
Parce que quand on...
On peut être professeur, mais pour quel idéal? Nous avons des professeurs qui entourent les chefs d'État, nous avons des professeurs qui entourent le Premier ministre, mais quand ils passent là sur votre studio, vous savez ce qu'ils débitent là. Je crois que le problème, c'est de dire exactement là où ça n'a pas marché. Puis par rapport à une question qu'on a posée là-bas, je crois que nous devons aussi le reconnaître. Et nous, Congolais, nous commençons bien des choses, des projets que nous ne savons pas bien parachever. Donc la révolution de 1996-1997 a été conçue, orientée et planifiée par les autres. Alors c'est une révolution qui a été conçue, planifiée par les autres. On a dû impliquer le peuple parce que Mobutu tendait déjà vers sa fin. Mais si une révolution n'est pas planifiée et mûrie par le peuple soi-même, ça donnerait des résultats que nous avons
pour Merci beaucoup, Franck.
Et la crainte, c'est que de nos jours, quelqu'un d'autre risque encore de s'improviser et d'initier une autre révolution en impliquant le peuple qui en a marre aussi d'ici.
Merci beaucoup, Franck. Jules, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Jules. Jules, vous êtes avec nous?
Allô, Radio Kassi.
Oui, Jules, oui. Vous avez une minute. Quelle est votre contribution?
Oui, oui, je voulais juste parler à propos de notre idole, Mobutu. Bon, à l'époque, nous, on était encore petits, mais selon les histoires ou les documentaires, donc c'est quelqu'un qui a fait des choses paramilitaires dans notre pays quand même, les Zaïre à l'époque, comme sur le plan militaire. Donc Mobutu a fait une armée forte, une armée professionnelle qui intervenait même à l'extérieur.
Voilà, je crois que le temps nous fait défaut. On va revenir rapidement à Jean-Jacques Kouondo. Jean-Jacques, vous êtes avec nous, bonjour. Jean-Jacques, Jean-Jacques, vous êtes encore avec nous en ligne. Voilà. Alors,
je suis toujours avec vous.
Voilà, Jean-Jacques, je disais tout à l'heure, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de le règne de Mobutu? Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez aussi dit, il faut garder la mémoire, en tout cas notre mémoire, rendre hommage à ces grands hommes qui a su quand même élever les niveaux de notre nation. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir?
Mais d'abord, retenez que Mobutu a été une des plus grandes figures marquantes de l'histoire politique et internationale du XXe siècle, parce que cette histoire ne pouvait pas se compter sans le Zaïre de Mobutu, qui a joué un rôle géostratégique important par rapport aux confrontations de l'époque. Mobutu, dans son actif, on peut lui accorder ou lui attribuer ses sentiments de se sentir congolais, et aussi son action pour la mise en valeur de la culture congolaise, un aspect que les gens ont oublié, mais qui rentre aujourd'hui dans ce qu'on appelle la géopolitique culturelle. Et Mobutu a été un des défenseurs de la culture congolaise. Aujourd'hui, la culture est devenue un élément de ce qu'on appelle le soft power, donc d'influence dans la géostratégie. Malheureusement, il n'est pas allé très loin dans la mise en œuvre de cette vision. Et dans son passif, on peut regretter le fait que Mobutu n'ait plus capitalisé tous les atouts en termes de ressources naturelles, humaines, géopolitiques, ressources minières du Congo pour construire un État stable, pour construire et pérenniser et construire une armée pérenne, et surtout faire du Congo le centre du monde de l'Afrique et du monde entier. Voilà ce qu'on peut retenir de Mobutu. Mais pour moi, Mobutu mérite sa place au Congo et son mémoire, mérite d'être respectée. Un jour, il faudrait que son corps rentre au Congo et qu'on lui rende les hommages qui lui sont dits, parce que ça fait partie de l'actif et du passif de l'histoire du Congo.
Alors, on a appris que vous êtes en train d'écrire un ouvrage à ce propos. Quel sera le titre, en tout cas, si vous n'avez pas changé d'avis? En tout cas, c'est l'information que nous avions.
Ah non, je ne suis pas en train d'écrire un ouvrage sur ce propos. J'ai écrit un ouvrage sur les armées au Congo, un ouvrage qui relate l'histoire du Congo sous l'angle militaire, géopolitique, géostratégique et un peu historique. Un ouvrage qui compte l'histoire du Congo depuis 1885 jusqu'à nos jours. Et une grande partie de cette histoire est consacrée aux forces armées zaïroises et à l'ANC et à l'action des Mobutu sur cette armée. Par contre, j'ai peut-être un projet d'écrire un livre sur la sociologie militaire de la RDC, et là je parlerai aussi énormément de Mobutu, mais bon, c'est peut-être un projet en chantier et loin d'atteindre le bout du tunnel.
Merci beaucoup Jean-Jacques Kouondo d'avoir appelé et d'avoir accepté donc de contribuer dans cette émission. Merci à tous les auditeurs qui ont parlé depuis l'étranger et aussi au pays. Alors nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Mimi Kindou était à la mise en onde, Nico Okalambay à la réalisation, et cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lou Ngembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.